Les transports aériens et maritimes à la une. Avec cette situation compliquée pour les habitants des îles, les avions d'Air Calédonie sont coulés au sol. Le Betticho est en réparation. Le risque requin devant la justice. Le tribunal administratif a examiné ce lundi le recours de PLP. L'association demande la suspension de l'arrêté autorisant la campagne de prélèvement. L'utilisation de drones en Nouvelle-Calédonie interdite depuis 2015. L'an dernier, une brigade a été créée au sein de la police nationale. Objectif, contrôler les utilisateurs. Le début de la campagne officielle pour les élections municipales, c'est aujourd'hui. Plusieurs débats seront organisés sur Radio Rythme Bleu. Demain midi, les candidats à Païta ouvriront le bal. Et puis le sport avec du football, la sélection féminine s'est imposée 2-1 sur le Vanuatu. Les Calédoniennes gardent l'espoir d'une qualification à la Coupe du Monde. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Je le disais en titre, à la une de l'actualité, les transports aériens et maritimes. Une nouvelle page s'est ouverte pour Air Calédonie, mais sans passagers pour l'écrire aujourd'hui. La compagnie a officiellement quitté Magenta pour opérer depuis Tontouta. Les mobilisations dans les îles ont cloué au sol les premiers vols domestiques. Lionel Sabot, résultat, des équipes en place, mais un terminal vide.
Une étape effectivement importante dans l'histoire d'Air Calédonie, un transfert logistique majeur, symbole d'une nouvelle organisation. Mais cette journée inaugurale s'est déroulée, vous le disiez, dans une atmosphère inhabituelle, celle du silence et de l'attente. En cause, vous le disiez également, des mobilisations et des blocages illimités qui touchent les aérodromes des loyautés. Conséquence directe, aucun vol n'a pu être assuré ce lundi vers et depuis Ouvéa, Marée, Lifou et l'île des Pins. Guillaume Wamignat est le président du comité de coordination coutumière de Djéouf.
C'est malheureux arriver là. On avait fait des courriers pour demander si on pouvait pas faire le transfert parce que la population n'a pas demandé leur avis. Elle n'a pas été concertée. Donc on voulait que le transfert ne se fasse pas, voilà. Donc on n'a pas voulu nous écouter, malgré que les courriers qu'on a donné au gouvernement, au congrès et puis à Air Calédonie, personne ne veut nous écouter. Je crois qu'ils nous expliquent ça comme solution, peut-être pour nous faire attendre. Là, actuellement, vous avez parlé des trois îles, mais il y a une des pins aussi. Les aérodromes sont fermés jusqu'à nouvel ordre. On attend après s'il y a des décisions du gouvernement ou d'Air Calédonie pour changer leur avis de transfert.
Et du côté de l'aéroport de la Tontouta, ce matin où vous êtes rendu, Léo, le contraste était assez frappant. Des agents d'Air Calédonie qui étaient bien présents, en uniforme, à leur poste, bien sûr, prêts à accueillir les premiers passagers. Mais les comptoirs sont restés désespérément vides. Aucun enregistrement, aucun appel d'embarquement, aucun flux de voyageurs. Bref, une situation très paradoxale pour ce premier jour censé symboliser un nouveau départ.
Et on signalera que l'USTKE a rappelé cet après-midi sa ferme opposition au transfert des activités d'Air Calédonie de Magenta vers Tontouta. Le syndicat dénonce l'absence d'une véritable vision pays. Fin de citation. Une semaine qui s'annonce donc compliquée pour les habitants des îles. On ne sait pas quand le trafic Aircal va pouvoir reprendre. Et en plus de ça, le Betticho est indisponible au moins pour la semaine, nous a expliqué le directeur de la Sud-Île, Édouard Castin.
Pour le moment, on est dans la phase de maintenance. C'est-à-dire que, comme vous savez, on a un moteur qui est hors service. Il y a un autre moteur qui est en route d'Australie qui arrivera d'ici une quinzaine de jours pour le remplacer. Par contre, on a une alerte sérieuse sur deux autres moteurs lors de la dernière rotation pour Ouvéa la semaine dernière. Du coup, on a décidé d'arrêter le navire pour vraiment corriger ces problèmes parce que, comme vous pouvez penser, si on a d'autres moteurs qui ont des problèmes, on va être obligé d'arrêter le bateau pour une période assez longue. Donc là, on est en train de finir les interventions. D'ici demain après-midi, on espère pouvoir faire les essais en mer pour vérifier que tout va bien sur les trois moteurs restants du bateau. Et si tout va bien, on essaiera de reprendre ce week-end. Mais tout ça est soumis au résultat des essais de demain après-midi.
Et puis pour être complet sur la situation des transports maritimes et aériens calédoniens, on signalera qu'Air Calin maintient l'ensemble de ses opérations et de ses liaisons internationales, notamment entre Nouméa, Bangkok et Paris. La compagnie tient à rassurer les passagers dans le contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient que l'on connaît. Air Calin a adapté ses plans de vol. Comment se porte le tourisme? Les chiffres de fréquentation ont été dévoilés par l'ISEE pour l'année 2025. Nous en parlerons demain matin avec la directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme, Julie Laronde, sera notre invitée du matin pour revenir sur la stratégie de relance et sur les perspectives. Rendez-vous demain à 7h30. Le risque requin devant la justice. Le tribunal administratif a examiné en début d'après-midi le recours d'EPLP. L'association environnementale demande en effet la suspension de l'arrêté autorisant la campagne de prélèvement des requins tigres et bulldogs. Jean-François Baudin.
EPLP conteste l'utilité des campagnes de prélèvement, mais tant qu'aucun jugement sur le fond n'a été prononcé, elle ne peut pour l'instant qu'attaquer la procédure. Et selon l'avocate de l'association, la mairie et la province sud ont joué au chat et à la souris. La campagne d'abattage a été annoncée par voie de communiqué de presse le 23 février, au lendemain de l'attaque mortelle qui a coûté la vie à un wingfoiler pourtant expérimenté. Et ce n'est que le soir que l'arrêté dérogatoire pour autoriser les prélèvements a été signé par la présidente de la province sud. Maître Johannopoulos a ensuite souligné que la province sud avait annoncé l'arrêt de la campagne de prélèvement une fois fixé le jour de l'audience devant le tribunal administratif. Contrairement aux allégations de l'avocate de PLP, il n'y a pas eu de déloyauté de la part de la province et de la mairie, ont expliqué leurs défenseurs. Et si la campagne a été annoncée avant la signature de l'arrêté, c'était pour informer le public au plus vite que les plages étaient fermées et qu'une campagne de prélèvement allait débuter. À l'issue de l'audience, le président du tribunal annonçait qu'il rendrait son ordonnance en fin de journée ou demain matin, alors qu'elle n'a toujours pas été rendue. Quelle que soit sa décision, elle n'aura pas d'incidence concrète car la campagne de prélèvement est terminée, mais elle pourrait peser si d'autres accidents de ce genre devaient se produire à nouveau.
Vous les voyez peut-être au cinéma, à la télé ou sur les réseaux, des paysages filmés en vue aérienne, des plans immersifs de bâtiments historiques. Ces images sont filmées par des drones. Sur le territoire, une centaine d'utilisateurs professionnels sont enregistrés. Et depuis 11 ans maintenant, une réglementation encadre leur activité et celle des particuliers. Une opération de contrôle était justement menée cet après-midi, Charlotte Coulson.
La technologie était nouvelle il y a quelques années, mais depuis, l'utilisation des drones s'est largement répandue. En 2015, une réglementation s'est mise en place en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement, plus précisément la direction de l'aviation civile, en a la charge. Les professionnels comme les particuliers doivent respecter certaines règles de survol. Comme l'explique Laura Goubert, elle est chef de la subdivision personnel navigant à l'aviation générale.
Aujourd'hui, il y a une réglementation qui s'applique aux drones professionnels. Donc les dronistes professionnels doivent respecter certains scénarios. Donc c'est des différents types de scénarios en fonction de si le drone vole en agglomération, si le drone est hors vue. Les dronistes de loisirs n'ont pas à respecter ces scénarios-là. Par contre, il y a des zones qu'ils n'ont pas le droit de survoler. Un drone de loisirs ne peut pas voler en agglomération. Et donc la deuxième chose à respecter, c'est pas de survol de personne avec le drone. Et puis la règle de hauteur de survol de 120 mètres, qui, je répète, est très importante. Et on voit assez régulièrement qu'elle n'est pas respectée aujourd'hui par les dronistes sur le territoire. Donc j'insiste pour cette règle.
Et la direction de l'aviation civile a également pour mission de contrôler le respect de ces réglementations, en tout cas chez les professionnels. Une opération était justement menée cet après-midi à la cathédrale de Nouméa. C'est la société Wamland Drone NC qui survolait la zone.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle parce que j'ai un vol de drone prévu à la cathédrale cet après-midi.
D'accord.
Je vais évoluer à 35 mètres maximum.
D'accord, bah écoutez, pour moi c'est bon, vous n'avez pas besoin de me rappeler.
Ok, parfait. Aujourd'hui, le but des prises de vue, c'était de réaliser une visite virtuelle pour la cathédrale de Nouméa. Et le drone nous aide en fait à faire le modèle 3D de la cathédrale et à réaliser des photos en 360 immersives. Alors l'opération, elle se prépare en plusieurs temps. On ne peut pas prendre un drone et venir décoller comme ça n'importe où. Il y a des cartes aéronautiques à contrôler, il y a des personnes à contacter, des demandes à faire, notamment auprès du Haut-Commissariat, notamment auprès de la Tour de Magenta. Et en fonction de la hauteur de vol, on peut avoir aussi d'autres acteurs de l'espace aérien à contacter. Un professionnel, il est tenu de faire ces déclarations-là, d'avoir une assurance et de réaliser un plan de vol qu'il va présenter au commissariat, et c'est le Haut-Commissariat qui va valider le plan de vol.
Une opération de survol menée cet après-midi en bonne et due forme, mais ça n'est pas toujours le cas. En janvier 2025, une brigade des moyens aériens a été créée au sein de la direction territoriale de la police nationale. Dotée de 3 télépilotes permanents, la brigade utilise les drones pour des missions judiciaires et administratives. Elle intervient également sur des contrôles inopinés. Cet après-midi, c'est le brigadier chef Lefebvre Fabian qui était mobilisé.
C'est un secteur qui se développe de plus en plus et aujourd'hui, en relation avec la DAC, on travaille de concert pour contrôler à la fois les exploitants professionnels et à la fois les dronistes de loisirs. Pour les exploitants professionnels, on a eu l'année dernière 6 contrôles, 3 ont été suspendus pour un non-respect des hauteurs et des élongations. Donc là-dessus, c'est pour ça que nos contrôles conjoints police nationale DAC sont très importants, parce qu'à la fois, on va venir voir s'il y a des infractions pénales, telles que la mise en danger d'autrui, l'atteinte à l'intimité, mais aussi des infractions dites administratives, c'est-à-dire le non-respect des hauteurs, le non-respect des élongations. L'arrivée des drones sur les territoires est trop récente pour donner un coup près direct maintenant. On ne va pas tout de suite sanctionner. Notre premier job, c'est d'accompagner, d'expliquer et d'avoir ce côté-là pédagogique.
Et vous l'avez compris, l'utilisation de drones sur le territoire est encadrée. L'ensemble des règles est à retrouver sur le site de la Direction de l'Aviation Civile. Et le site internet NC Drones répertorie quant à lui les zones de survol qui sont interdites en Nouvelle-Calédonie.
C'est aujourd'hui le début de la campagne officielle pour les élections municipales et Radio Rythme Bleu intensifie sa couverture de la campagne. En effet, dans les deux semaines qui viennent, nous organiserons des débats pour mesurer les enjeux du scrutin dans plusieurs communes. Le premier débat, ce sera demain midi. Il sera consacré à la commune de Païta. Nous recevrons Antoine Romain qui mène la liste Païta J'y crois, Milakoulo Tukumuli qui conduit la liste Païta Un Nouveau Souffle, Justin Gaïa de la liste Païta Ton Identité, Notre Richesse et Laurie Oumouni qui figure sur la liste citoyenne FLNKS Païta. Rendez-vous pour le débat des municipales de Païta demain à midi. Les élections municipales, justement, le CTOS souhaite faire porter sa voix dans la campagne. Le mouvement sportif calédonien a adressé un message à l'ensemble des candidats engagés. Il appelle à ériger le sport comme grande cause municipale. Christophe Dabin est le président du CTOS.
C'est vrai qu'on a lancé un plaidoyer, mais ce plaidoyer est avant tout un plaidoyer national lancé par le CNOSF. Il a fallu que pour nous, ce plaidoyer, on l'adapte à la Nouvelle-Calédonie par rapport à notre situation particulière. Le plaidoyer est vraiment pour que le mouvement sportif soit pris en compte dans ces élections et que on puisse, avec l'ensemble du mouvement sportif dans chacune des communes, créer et mettre en place un vrai pacte sportif. C'était vraiment un espoir de notre part, même si parfois on a été interpellés et qu'on a pu donner un petit peu la vision que l'on avait. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu les différents programmes et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont mises dedans et que on s'aperçoit parfois que les programmes, je veux dire, ne sont sans doute au niveau du sport, sur certains points, sont difficilement réalisables. Donc c'est pour ça qu'il était important pour nous qu'on puisse présenter et lancer, je veux dire, ce plaidoyer avec 10 propositions qui sont vraiment de dire que quand on met en place une politique communale, il faut que le mouvement sportif, quel qu'il soit, soit associé parce que le sport a une place importante dans les communes.
Le mouvement sportif qui a publié plusieurs propositions à travers ce communiqué à l'attention des listes engagées dans la campagne.
Ce qu'on propose, c'est vraiment de construire au sein de chaque commune un projet sportif local et dans ce projet sportif local, c'est revenir sur la place que la commune souhaite donner au sport. C'est aussi, l'utilisation, la rénovation des équipements sportifs et surtout, la place du club au sein d'une commune et enfin, les démarches qui peuvent être entreprises vis-à-vis du bénévolat parce qu'on sait très bien que si le sport existe en Nouvelle-Calédonie, c'est parce qu'il y a des clubs et que ces clubs, de toute façon, ont des bénévoles. Si les bénévoles ne sont pas accompagnés, ne sont pas aidés, il sera, de plus en plus flagrant dans chacune des communes que les clubs démissionnent, que les responsables démissionnent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'un pacte sportif local soit mis en place avec les équipes qui vont sortir des urnes.
Le CTOS qui appelle notamment à préparer un nouveau pacte sportif territorial entre les communes et le mouvement sportif vecteur de progrès pour tous. Il est 18h, vous êtes toujours sur Radio Rythme Bleu, on marque une première pause dans ce journal et on verra ensuite le reste de l'actualité.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ta-ta-ta ! La chasse aux gloutons d'énergie est ouverte. Les gloutons d'énergie, c'est tous ces objets qui gloutonnent notre électricité et font exploser nos factures. Le climatiseur, quel glouton celui-là ? Pour le calmer, on sort l'artillerie. On le règle à 25 degrés minimum, on l'éteint quand la pièce est vide, on l'entretient une fois l'an et hop, jusqu'à 10% en moins sur la facture. Plus d'infos sur ecogest.nc, eec.nc ou enercal.nc. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Info soir, Léo Fichou.
Une proposition de loi du pays modifiant le code minier de la Nouvelle-Calédonie à l'ordre du jour des élus du Congrès qui sont convoqués demain à 9h en séance publique. Il s'agit de mettre en œuvre la réforme du SVA, le silence vaut acceptation, pour donner plus de visibilité aux acteurs industriels sur leur potentiel accès à la ressource. À l'ordre du jour également un projet de délibération portant diverses dispositions d'ordre douanier, un texte qui vise à réviser les tarifs des droits de quai pour favoriser la valorisation de la scorie à l'export. Les élus devront enfin examiner un projet de loi du pays portant diverses dispositions en matière sanitaire et sociale. À la veille de cette séance du Congrès, le président de la province Nord publie un long communiqué pour dénoncer ce qui lui apparaît, et je cite, « comme une manœuvre politique flagrante et antidémocratique du gouvernement, du Congrès, de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi de la province Sud », et le ton est extrêmement virulent, Jean-François Baudin.
Paul Néaoutine met en cause la proposition de modification du code minier déposée par les loyalistes et le Rassemblement, dont l'objet est d'instaurer la règle du « silence vaut acceptation ». Selon le président de la province Nord, le but est de faire entériner la levée des restrictions à l'exportation des minerais bruts depuis les réserves géographiques métallurgiques de Thiébaghi, du Koniambo et des massifs latéritiques du Grand Sud. Il affirme que demain, et je cite toujours, il sera proposé par les instigateurs de cette manœuvre d'insérer deux amendements, l'un instaurant un régime dérogatoire modifiant le code minier pour permettre l'exportation des minerais bruts depuis les réserves métallurgiques, l'autre pour modifier le schéma minier en instaurant une dérogation au principe d'interdiction. Le président de la province nous rajoute que cette manœuvre est motivé par ses instigateurs comme moyen pour répondre aux exigences d'un repreneur de PRNC dont le plan de reprise n'est pas connu à ce jour. Il relève également que cela intervient alors que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vient d'entériner à l'unanimité un projet de texte proposant la levée des restrictions à l'exportation des minerais provenant des réserves métallurgiques pour une durée de 10 ans. Paul Néaoutine réaffirme sur le fond sa ferme opposition à la levée des restrictions à l'exportation de minerais bruts depuis les réserves métallurgiques et à la poursuite de l'exportation de minerais bruts en général. Il dénonce les manipulations et les manœuvres orchestrées par la province Sud, le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, et il affirme son attachement à la préservation des ressources minières et à la souveraineté économique sur l'exploitation et la valorisation de nos ressources naturelles renouvelables et non renouvelables. Fin de citation de ce communiqué de Paul Néaoutine.
L'actualité minière encore et toujours. Vendredi dernier, Prony Resources a inauguré son projet Lucie, lancé il y a plusieurs années. Il permet désormais à l'industriel de stocker ses résidus à sec et non plus de manière liquide. Un investissement de 60 milliards de francs qui a sur un nouveau mode de stockage des résidus qui pourrait en plus être valorisable. Mais avec Thibaut Martelin, le président du PRNC qui était notre invité ce matin, nous avons aussi évoqué l'état de santé de PRNC alors que des discussions sont en cours avec un éventuel repreneur. L'industriel peut s'appuyer, nous a-t-il dit, sur des résultats 2025 encourageants.
Nous avons pu fêter trois records en 2025. Un record de production usine en septembre, un record de production mine en octobre et également un record de production annuelle avec un peu plus de 36 000 tonnes sur l'année 2025, alors même que l'usine avait été arrêtée 8 mois en 2024, ce qui montre en fait une résilience extraordinaire de cette usine, une capacité de remobilisation des équipes qui a été très forte et je les en remercie. D'un point de vue financier, sans noyer tout le monde avec des chiffres, cette société a été en grande difficulté financière et a pu être financée grâce au concours de l'État français, sous réserve de pouvoir trouver un nouvel actionnaire. C'est ce qui avait été décidé en tout début 2024, où nous avons bénéficié d'un premier prêt d'État. Malheureusement, ce prêt a servi pratiquement exclusivement à couvrir les charges de mise en sécurité pendant l'arrêt forcé de mai à décembre 2024. Il a fallu donc que l'on demande et qu'on finisse par obtenir un nouveau prêt d'État, en deux temps en fait. Le dernier date de juillet 2024, devait nous permettre de tenir jusqu'à conclusion d'un accord transactionnel avec un nouvel actionnaire. Nous sommes toujours sur cette enveloppe.
Et toujours sur cette enveloppe et toujours en discussion avec un éventuel repreneur.
Les discussions continuent à avancer. C'est un deal qui aujourd'hui est mené par la Banque Rothschild et par l'État français, qui est venu à notre secours à plusieurs reprises pour améliorer notre trésorerie. La France devait se doter d'abord d'une loi de finances, donc ça s'est fait enfin, mais très récemment. Les discussions pourront aboutir, je pense, dans les prochaines semaines. La condition, en fait, qui avait été fixée, et quel que soit le repreneur, et j'ai l'impression que ça ne concerne pas que PRNC, était assorti également de conditions traitables beaucoup plus localement, en particulier un accès à une énergie meilleur marché, et puis également à pouvoir diversifier nos revenus en exportant le minerai fatal qui ne serait pas valorisable dans nos usines. Il paraît plutôt normal de pouvoir valoriser ce minerai plutôt que de le jeter. Ça concerne également d'autres minerais que l'on pourrait peut-être concentrer et valoriser. Je pense à de la chromie. Il y a d'autres revenus complémentaires à aller chercher et on y travaille. Pour cela, il faut modifier le code minier qui aujourd'hui, à l'intérieur des réserves métallurgiques, interdit l'export de minerais.
L'intégralité de cet entretien est à retrouver sur notre site rrb.nc. L'actualité internationale vue dans la région avec les échanges de frappes entre le clan américano-israélien et l'Iran qui continue. Plusieurs personnes sont mortes, des civils mais aussi une grande partie des hauts dignitaires iraniens dont le guide suprême Ali Khamenei. Dans le Pacifique, les deux grands pays de la région, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, soutiennent l'opération militaire américano-israélienne. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Dans un communiqué officiel et lors de conférences de presse improvisées, le Premier ministre australien Anthony Albanese a notamment condamné le programme nucléaire et celui des missiles balistiques du régime des Ayatollahs, de même que les brutalités et les intimidations dont a été victime le peuple iranien. La mort de Khamenei ne sera pas pleurée, a-t-il dit. La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a quant à elle demandé, je cite, « la reprise du dialogue et des négociations diplomatiques entre Washington et Téhéran ». Dans un communiqué, le Premier ministre néo-zélandais, Chris Luxon, et son ministre des Affaires étrangères, Winston Peters, ont quant à eux approuvé sans réserve les frappes américano-israéliennes contre l'Iran. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour concerne la situation internationale. Approuvez-vous l'intervention américano-israélienne en Iran? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. 18h passées de 9 minutes, on marque une seconde pause avant de parler sport.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Femmes de talent, du 6 au 8 mars, rendez-vous à la salle des expositions de Louville pour la 19e édition du Salon des Femmes. Plus de 70 exposants, des animations gratuites tous les week-ends et des temps forts dédiés aux droits des femmes en Nouvelle-Calédonie avec les associations locales et la province sud. Salon des Femmes, du 6 au 8 mars à Louville, programme complet sur Facebook, Pacific Fair, NC.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La fin de votre journal, le sport avec Léo Fichou.
Du football dans la région, les Calédoniennes ont réagi ce lundi après la déroute contre les Fidji 5-0 vendredi en ouverture des qualifications océaniennes à la Coupe du Monde. Les joueuses de Christelle Wanaway se sont imposées 2-1 sur le Vanuatu. On écoute Priscilla Maillot, la gardienne de la sélection calédonienne, élue joueuse du match.
Un match très important pour nous. On a fait un premier match contre les Fidji où ça a été compliqué pour nous. Aujourd'hui, on a joué contre Vanuatu. On y est allé avec nos armes jusqu'au bout et je suis très fière de mon équipe. Et voilà. Le dernier match, on a le même objectif qu'aujourd'hui, c'est d'y aller avec nos armes jusqu'au bout, se combattre jusqu'au bout pour aller chercher la victoire et espérer décrocher une place pour... dans le top 2 de la poule.
Ouais, effectivement, grâce à cette victoire, les Calédoniennes peuvent toujours espérer se qualifier pour la Coupe du Monde. Et pour ça, il faudra battre la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce sera jeudi. Nous avons parlé haltérophilie dans le MAC des Sports ce midi. Nos invités étaient Kevin Liquitine, le président de la Ligue calédonienne, et Marcus Meozzi, l'entraîneur de la sélection calédonienne. L'occasion de faire le point sur les prochaines échéances à venir, les Océania en ligne de mire en avril, mais aussi pour les meilleurs, les championnats de France.
On avait un petit jeune Mathis Sacco qui avait fait champion de France l'année dernière, qui sera représenté là sur ces Océania et qui représente une chance de médaille. On a la petite Mélissa Ortosi qui avait fait quatrième au championnat de France l'année dernière, qui est également qualifiée et qui représente également une chance de médaille. On avait aussi un autre petit jeune, Henri Athénée, qui avait fait champion de Nouvelle-Zélande en novembre dernier et qui est qualifié et qui représente aussi une forte chance de médaille. Donc voilà, disons que tous nos jeunes qui étaient déjà compétitifs l'année dernière le sont encore cette année, et il y a certains qui prennent exemple, qui commencent à se greffer et qui essaient d'attraper un petit peu le train en marche.
Kevin Liquitin, quand on regarde voilà la discipline, nombre de participants et à côté de ça le palmarès, hein, tout de même on voit ce que vous ramenez des échéances dans la région et aussi sur la scène nationale. C'est quoi que vous dites, le travail porte ses fruits?
Oui, j'ai envie de dire que le travail porte ses fruits, et j'ai envie de dire que le travail fait par passion porte toujours ses fruits aussi. Donc je pense qu'on a une réelle équipe de passionnés derrière tout ça. Et puis après, c'est un travail qui est mutuel, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'athlètes qui sont là pour faire le travail, ben nous, on serait inutiles. Donc il faut quand même garder cette fusion qu'on a entre les dirigeants, les athlètes. Pour le moment, la mayonnaise, elle prend bien. Les bonnes nouvelles, c'est que nous, depuis qu'on a relancé l'haltérophilie de manière générale depuis 5 ans, la Ligue, elle a fêté ses 3 ans au mois de février. On a un nouveau club sur la foi qui vient d'arriver. Donc en termes de dynamique et de développement, on commence à sortir un peu de Nouméa. La pratique, elle commence à s'étendre. Et je ne souhaite que le meilleur pour nous sur les saisons qui vont arriver, quoi.
L'haltérophilie qui continue de se développer au fur et à mesure des années, avec également de nombreuses actions menées par la Ligue et les clubs pour attirer les jeunes. 18h12, après le sport, la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, l'Unicalo pour professionnels et particuliers, et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous, Pierre.
Vigilance jaune, vent violent. Elle concernera mardi après-midi l'ouest de Dumbéa à Poum pour un vent sud-est proche de 25 nœuds avec des rafales pouvant atteindre 35 nœuds par endroit. Cette nuit, sur le nord-est et la pointe nord, quelques averses s'attarderont en début de nuit avant de se dissiper progressivement. Sur le reste du territoire, le temps restera généralement sec malgré quelques remontées nuageuses sur l'extrême sud et les Loyautés. Du nord-est à Belep, le vent de sud-est restera bien établi autour de 20 nœuds. Ailleurs, il soufflera entre 15 et 20 nœuds, encore temporairement 20 à 25 nœuds en soirée sur le nord-ouest. En cours de nuit, sur la pointe sud, l'île des Pins et la côte ouest, il mollira entre 10 et 15 nœuds. Sur le sud, la nuit se fera plus fraîche avec des températures comprises entre 17 et 20 degrés. Sur le reste du territoire, elles resteront plus douces entre 21 et 25 degrés. Demain matin, en début de matinée, de petites averses resteront possibles du nord-est à Belep, sur les Loyautés et la pointe sud. L'Alizé entraînera des bancs nuageux, souvent sans conséquence. Ailleurs, le soleil dominera largement. Sur le nord-est et Belep, le vent de sud-est soufflera entre 20 et 25 nœuds avec des rafales. Ailleurs, il s'établira rapidement entre 15 et 20 nœuds, annonçant une journée ventilée sur l'ouest. Et côté mer, la marée sera basse à 1h45, puis marée haute à 8h15 demain matin. Coefficient compris entre 34 cm et 1m65. Et côté ciel, le clair de lune atteindra 98%, annonçant une pleine lune imminente. Et elle ne sera pas ordinaire, hein. Une éclipse totale de lune se produira demain soir entre 20h et 23h. Un rendez-vous céleste rare sous notre ciel du Pacifique. L'heure sera venue de sortir la natte, de s'installer tranquillement sur la plage et de lever les yeux au ciel pour admirer le spectacle.